Après 3 mois d'utilisation intensive, la fine équipe d'ORLM est-elle toujours addict à l'iPhone 11 Pro ? Autonomie record, mode photo bluffant, quelles fonctions nous sont-elles devenues au fil des jours indispensables ? Le 11 Pro s'est-il bonifié au fil des semaines ou à l'inverse ? Des défauts se sont-ils fait jour ? Débat ! Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Je vous rappelle qu'On refait le Mac est disponible en vidéo sur notre site www.onrefaitlemac.com et sur notre app iOS ORLM, mais également sur YouTube, Dailymotion, iTunes et Podcast, mais aussi en une version audio pour écouter On refait le Mac en faisant votre jogging le dimanche matin sur iTunes, Podcast, mais également sur Spotify, Deezer et TuneIn. Avec comme chroniqueur ici en plateau cette semaine à mes côtés, Stéphane Zibi de Ionis X. Bonjour Stéphane.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Est-ce que tu es en meilleure forme que moi ? Parce que là, je ne garde pas au super aujourd'hui.
Ça ne serait pas très compliqué d'être en meilleure forme que toi, voilà. Étant donné que tu braves la fièvre. Et...
Voilà, j'ai failli faire cette émission depuis le fond de mon lit en duplex du côté du siège d'X-Brain. Laurent Pantanach, bonjour Laurent.
Bonjour, on refait le Mac.
Ça va bien ?
Très très bien.
Tu n'as pas encore mis les décos de Noël hein, dans ton bureau ?
Non, j'ai pas mis les décos de Noël. Je m'inspire par Steve Jobs derrière moi.
Ses décos de Noël, mais c'est vrai qu'il est en altitude. Il s'agit bien sûr de Didier Policani en duplex de Lausanne et de la rédaction de Mac Forever. Bonjour Didier.
Salut Olivier. J'aime bien la petite distance de sécurité qui est entre toi et Stéphane. C'est pour que les virus ne sautent pas dans
ouais,
l'autre.
Il se tient très très. Mais je suis très content.
Quelqu'un qui a bien fait de pas venir cette semaine.
Voilà. Ben Laurent, du coup, il y a préféré rester. Ouais. C'est vrai que c'est un peu compliqué de circuler sur Paris ces derniers temps. Allez, avant d'enchaîner avec le sondage de la semaine, un mot au sujet de notre sponsor cette semaine. Il s'agit bien sûr de SanDisk. SanDisk qui commercialise l'Xpand Wireless Charger, un chargeur à induction pour faire le plein de la batterie de votre iPhone et sauvegarder automatiquement ses photos. Il intègre en effet un SSD de 128 ou 256 Go pour archiver tous les clichés ou vidéos en plus de recharger tous les iPhones de la famille sans avoir à s'abonner à un service dans le cloud. Pour copier vos photos, c'est très simple, il suffit de le poser, le téléphone bien sûr, sur le chargeur pour qu'elle soit les photos automatiquement copiées dans le SSD intégré. C'est simple et il est là, regardez à côté de moi. Il charge en même temps au téléphone. Voilà. Et en plus, il y a une petite prise USB. Vous pouvez aussi le brancher sur le Mac. Ça fait SSD. C'est assez pratique. Allez, on passe tout de suite au sondage. Après cette page couleur, on passe en enchaîne avec le sondage de la semaine. Le sondage de la semaine, c'est la réponse à la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter dont refait le Mac. La question était cette semaine, utilisateur d'iPhone 11 Pro, 3 mois après sa sortie, qu'appréciez-vous le plus dans le fleuron des smartphones d'Apple ? Vous étiez 49% à répondre l'autonomie, 33% à répondre ses 3 capteurs photo, 10% à répondre la nouvelle couleur verte et 8% enfin la puissance. Un plébiscite donc pour l'autonomie à l'image du message de Louis Blot posté sur Twitter sur le compte @onrefaitlemac. Regardez, n'empêche que la batterie de l'iPhone 11 Pro Max, c'est fou, il me reste encore 7% de batterie et la dernière charge date de hier matin, plus de 30 heures d'utilisation normale. Messieurs, est-ce que vous avez fait le même constat que notre Twittos ? La promesse d'Apple était de gagner 4 heures par rapport au XS entre le 11 Pro et le XS, 5 heures avec le Pro Max par rapport au XS Max. Est-ce que vous confirmez, Stéphane, est-ce que vraiment tu n'as plus besoin d'avoir cette batterie additionnelle qui était indispensable jusqu'à maintenant pour l'utilisateur d'iPhone ?
J'ai plus de batterie additionnelle, en effet. C'est quelque chose qui est remarquable d'une certaine manière, mais qui, bon, quand on repense au premier téléphone où on pouvait rester une semaine sans charger, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai qu'on partait peut-être de loin. Enfin, on arrive à quelque chose de raisonnable et qui nous permet enfin d'éviter de trop nous charger. Et c'est enfin une bonne nouvelle. Je parle du Pro Max, parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent. Le 11 Pro, c'est pareil. Ouais. J'utilise beaucoup moins. Cette année, j'ai inversé. Comme avec l'eSIM, j'ai mis mes deux lignes de téléphone sur un seul téléphone pour me trimballer qu'avec un seul téléphone. Donc en plus, tu vois, il y a quand même beaucoup de trafic sur celui-ci. Et il me tient bien plus d'une journée. Je ne le cherche plus le soir obligatoirement. Et c'est vraiment une réelle avancée. On va dire qu'enfin, on arrive à quelque chose de raisonnable.
Au-delà, enfin, Didier, Apple a surtout enfin écouté ses utilisateurs. Et pour la première fois, Apple a augmenté l'épaisseur de son téléphone pour éliger une batterie tout simplement plus puissante, Didier. Et ça se voit.
Ouais, ils l'ont fait sur le dernier MacBook Pro 16 pouces. C'est rigolo de voir Apple revenir sur ces dogmes comme ça, parce que manifestement, je pense qu'ils se sont dit, là, on a peut-être un petit peu trop tiré sur la corde. Et effectivement, c'est vrai que la différence est plus nette quand même sur le Pro, hein, enfin, quand tu venais d'un iPhone XS avant, parce que là, effectivement, la batterie était quand même assez, assez légère. Par contre, c'est vrai que sur les versions Max, on tenait déjà bien la journée, même en ayant une utilisation assez intensive quand même. Moi, je ne tiens pas deux jours. Hein. J'ai quand même une utilisation assez costaud sur le téléphone. C'est vrai qu'on n'est pas encore là, mais par contre, c'est excessivement rare de pas tenir la journée. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont quand même lancé les Smart Battery Case là, pour prolonger l'autonomie. J'étais amusé de voir ça même sur le Pro Max. Donc, tu mets ça, tu tiens le week-end, c'est clair.
Voire même la semaine. Donc, la puissance de la batterie atteint désormais 3046 mAh sur le 11 Pro contre 2658 mAh sur le précédent modèle, le XS. Et enfin, le Pro Max, la batterie culmine à 3969 mAh contre 3174 mAh pour le XS Max. Laurent, est-ce que tu constates les mêmes progrès sur ton 11 Pro et au-delà, les progrès ne sont pas dus uniquement à l'augmentation de la batterie. Il faut regarder du côté de la puce, je crois aussi.
Tout à fait. Alors oui, Stéphane avait dit lors d'une émission précédente en me paraphrasant que ça avait changé notre façon dont on recharge le téléphone. Et donc je vais le répéter parce que je ne recharge plus mon téléphone la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, je le recharge le matin quand je suis sous ma douche et puis peut-être à un autre moment dans la journée. Et je recommande à nos auditeurs, lecteurs, youtubeurs, visionneurs de regarder l'excellente émission sur les batteries pour se rendre compte qu'on pouvait charger plusieurs fois. Et du coup, tout ça mis à bout a vraiment changé ma façon d'utiliser. C'est presque agréable de plus avoir cette espèce d'angoisse de la panne de batterie.
C'est vrai que moi, j'ai plus du tout de panne. Je rentre le soir et il me reste encore 30 ou 40%. Pourtant, je suis un gros utilisateur lorsque je vais me coucher le soir et je le pose juste sur son chargeur à induction. Didier, Apple livre désormais un chargeur rapide, hein, il faut le souligner, de 18 watts. C'est également vraiment appréciable pour le recharger. Est-ce que toi, tu privilégies ce mode-là ou comme Laurent, la recharge par induction?
Ben, en fait, je trouve que la nuit, l'induction, c'est top parce que tu peux le prendre et le reposer sans trop regarder. Surtout là, maintenant, il y a des chargeurs, on en parlera peut-être après, mais qui commencent à avoir pas mal de bobines où tu peux les poser un peu n'importe où. Donc, vraiment très pratique. Moi, je trouve que l'induction, c'est fait pour ça. Et en plus, c'est une charge lente, donc elle use moins la batterie. Hein. Enfin, on renvoie les gens à l'émission sur la batterie, mais c'est quand même pas mal. Et c'est vrai que de livrer ce chargeur en plus, finalement, le chargeur de 5 watts, il servait pas à grand chose avant, puisque effectivement, c'était un peu de la charge entre le filaire plus assez lent. Moi, je trouve que c'était un peu le moins bon des deux mondes. Et là, on se dit, bah voilà, si on a besoin le matin absolument de charger vite, en un petit quart d'heure, là déjà, tu charges pas mal. Et on a ce chargeur qui est à dispo, on a pas besoin de l'acheter. Parce qu'en plus, avant, il fallait acheter le câble USB-C, qui était quand même assez cher, même si on en trouve maintenant des tierces parties. Mais quand même, c'était un surcoût qui n'était pas négligeable. Donc ouais, il était temps, et franchement, pour le prix, on pourrait même avoir un petit chargeur induction basique, tu vois.
Ou même des AirPods, c'est ce que dit la rumeur. On verra
peut-être
ça
peut-être l'année prochaine.
On va voir ça dans un instant sur... Sur le busomètre, Apple a donc greffé une batterie plus puissante et c'est heureux et plus grosse. Hein, ils cassent leur code, il était temps. Ce qui fait prendre en revanche un léger embonpoint au 11 Pro, je ne suis pas tout seul. Et surtout, est-ce que cela a un impact en matière d'ergonomie? C'est important au quotidien pour 3 semaines. Est-ce qu'on a vraiment ressenti des différences? On y répond après le busomètre. Le busomètre, les rumeurs et les infos qui ont le plus buzzé autour de la planète Apple du côté du site Mac Forever. Et c'est Didier qui s'y colle. Didier.
Et on est obligé de commencer, Olivier, par le Mac Pro, évidemment, qui est sorti, enfin, qui est disponible à la commande là, cette semaine. Alors, prix d'entrée, 6 500 €.
Ouais, aïe, aïe, aïe.
Mais 6 500 €, c'est pas si cher au final, puisque dès que tu montes en fait en option, tout est cher en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est à peu près bon marché, que ce soit de la carte graphique, même du stockage. Le stockage est ridicule, hein, les SSD, tu montes à 256 de base, tu montes à
Mac Pro,
à 4 Tera. C'est assez fou.
Elle est un peu light quand même, la première config, on est d'accord.
En fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui disaient, tiens, je pourrais arriver à monter une belle petite config là pour un peu moins de 10 000 balles, tu vois, les indépendants qui ont un petit peu de budget. Et là, c'est vraiment la douche froide parce que à 10 000 balles, t'as rien. Surtout que si tu veux vraiment en profiter, il faut quand même des écrans un peu corrects derrière. Et voilà, en fait, ça a vraiment rompu le lien avec tous ces gens. Et évidemment, il y en aura toujours qui sont assez fous pour acheter ça. Mais je crois que ça repositionne effectivement bien la machine. Voilà, je sais pas si toi, t'as cassé ta tirelire, mais ça devient compliqué, hein, même pour la presse et tout, d'arriver à tester ce genre de machine.
Écoute, on espère qu'Apple va se rappeler à nous et que la semaine prochaine, on pourra vous proposer une émission de Refait le Mac consacrée au Mac Pro et tu seras, j'espère, avec nous également. Mais c'est vrai que de commander une config à ce prix-là pour juste le tester, c'est juste pas possible pour des structures comme les nôtres, notamment. Deuxième info ou rumeur, Didier ?
Alors une info, puisque Tim Cook est en tournée japonaise, là je pense qu'il en a donc pour la semaine. Alors,
ce il est même à Singapour ce matin, il a atterri à Singapour. Si
tout exactement, c'est une petite tournée asiatique, donc il va voir pas mal de monde, hein, aussi bien, bon il fait des petites tournées évidemment dans les Apple Store, il va aussi voir des développeurs, hein, c'est son grand dada en ce moment. Ce qui est quand même étonnant, c'est son énorme silence face au Mac Pro, face aux produits en général, hein, tu remarques quand même, il fait de la com, mais très très high level. Moi je suis assez surpris de ça, je sais pas ce qu'on pense, mais...
Très mass market dirons-nous, voilà.
Ouais. Voilà, et quand même, quand le Mac Pro sort, tu vois, ça aurait été cool d'avoir un petit tweet, un truc un peu sympa. Il a
Mac is back, Didier, Mac is back, ça fait toujours plaisir.
Et on se demande, ouais, est-ce que Mac is back, est-ce que les produits intéressent vraiment Tim Cook? C'est une vraie question.
Troisième info ou rumeur, Didier.
Alors ça, c'est une info assez amusante. Apple soupçonne d'anciens employés de vouloir fuir vers la Chine et de vouloir vendre des secrets liés à la voiture autonome. Donc déjà, c'est intéressant de savoir qu'Apple développe une voiture autonome. Tu vois.
Oui, ça on savait, il y a le projet Titan notamment.
Non, bien sûr, mais c'est évidemment, Apple se bat toujours pour protéger ses secrets industriels et on sait à quel point ça a beaucoup de valeur aujourd'hui et ça se revend aussi très très cher. Donc là, c'est assez rigolo parce que c'est des gens qui sont vraiment accusés de vol et Apple craint vraiment, parce que forcément en attendant le procès tu peux comparaître libre et tu peux aussi fuir le pays quoi.
Allez, rumeur ou info suivante.
Bah, grande info, Apple de retour au CES, on en parlait en préparant l'émission. Alors après 27 ans, c'est vrai, on peut se dire tiens, Apple fait enfin son grand retour, ouais. Tu vois peut-être bientôt une Apple Expo, voilà, mais non, plus sérieusement
à la porte de Versailles, ça serait bien, ça rappellera des bons souvenirs.
On verra, hein. Mais là, c'est vrai qu'il participe à une conférence sur la sécurité, donc voilà, c'est encore quand même pour effectivement mettre... On se rappelle déjà que l'année dernière, Apple avait fait une petite campagne de pub autour de la sécurité pendant le CES, donc pour un petit peu mettre Android et tout le monde Google face à ses responsabilités, et là, c'est vrai qu'ils remettent le paquet là-dessus, c'est encore beaucoup de la com, évidemment. Donc voilà, c'est pas Apple au CES qui va te présenter des nouveaux produits, mais c'est
pas
Apple qui va pour communiquer.
Oui,
je pense pas qu'on apprenne grand-chose non plus. Hein.
Ils sont toujours sur les salons, mais ils retournent leur carte, leur badge. Et c'est après avoir discuté avec vous qu'ils remettent droit et que voilà. Mais c'est bien quand vous allez dans les zones où les gens discutent, vous apercevez qu'il y a pas mal de gens d'Apple. Cinquième busomètre, cinquième rumeur ou info, Didier ?
Oui, on a beaucoup parlé de 5G dans l'iPhone cette semaine, Olivier, puisque voilà, alors il y a des analystes, hein, qui pronostiquent des versions 5G, encore des versions 4G pour l'an prochain, ce qui ferait beaucoup d'appareils. Et puis il y a des rumeurs au sujet un petit peu des composantes du téléphone, puisque Apple doit forcément mettre encore peut-être un petit peu plus de batterie pour la 5G, qui consomme un peu plus, qui chauffe aussi un peu plus. Et là, on parle de composants qui permettraient donc effectivement de gagner un petit peu d'autonomie ou pas, d'ailleurs, puisque si la 5G consomme plus, voilà, peut-être que tu compléteras simplement ce qu'elle prend en plus, mais on sait qu'Apple est quand même assez doué pour gérer l'énergie malgré tout, donc je pense qu'ils vont trouver un compromis. Moi, cela dit, j'utilise un téléphone 5G là, ici, parce qu'en Suisse il y a déjà la 5G, et j'ai pas trouvé qu'il y ait des si gros problèmes de dissipation et d'autonomie. Alors c'est un gros modèle, hein, c'est un Huawei, Mate 20X, un truc comme ça, et bon voilà, j'ai pas trouvé de grosses différences, si tu veux, par rapport à un iPhone 4G, par rapport à un smartphone 4G.
Alors, belle transition, merci Didier. La 5G, c'était le grand absent de cet iPhone 11 Pro, sachant que certains modèles, notamment de Samsung, adoptent déjà la 5G, hein, des concurrents directs.
Il y avait des modèles 4G, 5G aussi, donc
toi, tu considères que c'est un manque, et qu'est-ce que tu penses justement de l'arrivée de cette 5G?
En France, nous n'avons pas d'offre qui nous permettrait d'utiliser. Je crois qu'en France, les gens d'Orange m'ont dit que le seul endroit où on pouvait utiliser la 5G, c'est autour du stade Vélodrome, à Marseille. Mais par rapport à ce que tu disais, Didier, là, sur l'autonomie peut être un problème. Parce qu'en fait, on n'est plus sur la même technologie que les 4G précédentes. Avant, quand on avait la 4G qui était liée, ou la 3G, etc., qui était liée à une antenne, l'antenne émettait un signal et bon, après, ça se balayait sur les murs. Et bon, parfois, quand on avait des murs qui étaient un petit peu non fans de ce type d'onde, et ben, on ne captait pas dans certains. Pour la 5G, ben, ça va être différent, c'est qu'il y aura toujours des antennes, mais elles vont aller vers chaque terminal en direct. Il n'y aura pas de possibilité de relais ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que pour atteindre ce type de choses, il faudra plus d'énergie pour pouvoir ce type de choses.
Il faudra densifier plus le réseau.
C'est pour ça qu'il y aura d'office, ce ne sera pas la même technologie. Un iPhone 5G ne pourra pas être... Bon, il pourra avoir bien sûr de la 4G, mais un 4G ne pourra pas avoir de la 5G, ça c'est certain. Et donc, il faudra vraiment qu'il y ait une adaptation qui soit nécessaire
En clair, il faudra du temps pour que les réseaux soient denses.
Je pense, ouais, je pense que la première version de 5G va pas être aussi rapide que ce qu'on va avoir, mais pourquoi pas. Mais
sauf si on est juste en face de la borne, bien sûr.
Bien sûr, bien évidemment, comme d'habitude. Mmh. Mais c'est, en tout cas, c'est un truc... Moi, je trouve que c'est pas grave que le 11 Pro n'avait pas la 5G.
Ouais, bon, il est vrai que normalement, lorsqu'on achète un téléphone, c'est pour le garder au minimum 3 ans. Dans 2 ans, la 5G, on peut penser, du moins on l'espère, en France, serait installée. Donc ce serait un handicap pour ceux qui l'achètent maintenant. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça... C'est absolument pas un handicap puisque la 5G n'est pas encore déployée. Retour donc sur l'iPhone 11 Pro et sur l'ergonomie. Le compromis d'Apple d'augmenter son poids et son épaisseur est-il un handicap au quotidien ? Ergonomie bilan mitigé, en le prenant en main, du moins pour le Pro, Max, que l'on perçoit, on perçoit qu'il est légèrement plus lourd et qu'il est légèrement plus épais. Hein. C'était mon premier réflexe quand je l'ai pris en main. 226 grammes pour le 11 Pro Max contre 208 grammes. C'est 20 grammes quasiment, mais en les sent vraiment. 188 grammes pour le 11 Pro contre 177 grammes pour le XS. Une épaisseur supérieure de 4 mm. Alors, vos impressions, messieurs, après 3 mois d'usage, moi j'ai vraiment le sentiment que mon Pro Max est un peu une brique. Est-ce que toi, tu n'as pas un Pro Max, hein, tu as un Pro Laurent, est-ce que tu est-ce qu'en termes d'ergonomie, ce léger embonpoint t'a gêné ?
Alors déjà, il faut se rappeler que les X et XS étaient lourds. Hein.
Oui.
Quand tu compares aux gammes précédentes, c'est-à-dire 7, 8, aujourd'hui, quand je prends un 8 à la main, qui, tu vois, ou même un 8 Max, qui est à peu près la même taille par rapport au 11 Pro, quand tu le prends, tu as l'impression que tu as un téléphone en plastique. C'est là où tu t'en rends compte. C'est au moment où tu fais la comparaison. Après, oui, il est lourd. C'est un téléphone qui est lourd. Tu le sens dans la poche. Après, je vais être tout à fait sincère. Entre un téléphone un peu plus lourd et où je n'ai pas de problème de batterie, un téléphone plus léger où je suis en panique en milieu de journée en me disant est-ce que je vais finir la journée, il n'y a pas photo. J'utilise mon téléphone professionnellement. Je préfère. Tu vois, il ferait même 20 grammes de plus. Il tiendrait 2 heures de plus. Je le prendrais quand même. Voilà. C'est l'usage. Quoi. On a besoin de téléphones aujourd'hui qui sont capables de téléphoner tout le temps.
Stéphane, tu as les deux en plateau avec toi. Tu as le 11 Pro et le 11 Pro Max. Alors, concrètement, moi, je trouve c'est une vraie brique. Hein. Alors, tu vois, tu pousses le vis jusqu'à pas de mètre
de coque. Ouais.
De coque. Mais en plus, avec une coque, si en plus tu prends une coque batterie, comme nous a indiqué tout à l'heure Didier, il faut avoir des grosses poches quand même. Hein.
C'est sûr que ça déformerait nos costumes. Donc, raison pourquoi je ne mets pas
de coque.
De coque, mais je mets les coques, mais les coques de nos amis.
De chez Rhinoshield.
Parce que c'est vrai que j'aime bien les mettre, mais j'ai une coque, mais là je les ai enlevées pour que tu.
D'accord.
Bah oui.
Concrètement, est-ce que c'est trop lourd, franchement? Moi, je trouve que c'est trop lourd.
Sincèrement.
Mon support de voiture ne tient pas là. Il n'arrive pas à le supporter.
Il faut que changer les supports de voiture.
Mais d'une génération à l'autre, entre le 16 et le 11 Pro Max, pourtant, c'est le même form factor. Hein.
Quand tu additionnes tous tes besoins et tu vois tout ce que peut te porter Apple, comme l'a dit Laurent il y a quelques instants, est-ce que le fait de ne pas pouvoir charger, d'arrêter de charger ton téléphone toutes les 15 minutes ou d'avoir une batterie supplémentaire, déjà c'est une chose. Moi, je ne sais pas, je me doute, je pense qu'on est arrivé à un poids qui va rester standard pour les années à venir. On ne va pas changer.
Ouais.
Ça paraît impossible qu'il allège. Ou alors on trouve de nouveaux composants
on va voir.
Moins luxueux. Quoi.
Ça m'étonnerait chez Apple.
Mais ça m'étonnerait.
Il y a une autre concession, Didier, qu'a fait Apple sur l'autel du gain de l'autonomie. La batterie, d'une part, l'épaisseur, mais aussi la technologie 3D Touch qui permet de mesurer le niveau de pression sur l'écran pour activer une fonction qui a été abandonnée sur le Pro au profit du Haptic Touch qui équipait le 10R et qui équipe donc le 11 cette année. Désormais, on ne mesure plus la force de la pression, mais le temps que le doigt reste positionné sur la dalle. Est-ce que toi, ça t'a gêné, Didier ? Moi, au début, ça m'a vraiment embêté au quotidien.
Moi, c'est toujours casse-pied. Vraiment, ça m'énerve. En fait, je mets mon doigt sur le clavier, puis après, je reviens sur la barre espace. Là, c'est pas pratique. Et en plus, sur les gros téléphones, la barre espace, il faut plier vachement le pouce. En fait, c'est un peu technique.
C'est moins ergonomique, on y perd.
C'est moins ergonomique. Et vraiment, non, moi, je déteste ça. J'espère qu'ils vont le remettre. Et je pense que c'est pas impossible qu'ils le remettent, peut-être en augmentant un petit peu la taille des téléphones. Moi, j'y crois assez. Quand tu regardes ce qu'il y a sous Android, les écrans sont un petit peu plus grands. Et peut-être qu'ils pourraient remettre ce genre de techno. C'est vrai que ça prend un peu d'épaisseur, mais Mais pour le curseur, c'était absolument génial. Et d'autant que moi, ce système de haptic touch m'énerve parce qu'il y a des fois où je fais des actions que je voulais pas faire.
Exactement.
Tu te retrouves avec la lampe qui s'allume tout le temps, avec l'appareil photo qui se déclenche alors que tu as juste appuyé sur l'écran. Enfin, t'as pas appuyé sur l'écran, tu vois, t'as juste mis ta main dessus. Et ça, c'est pénible. Et il y a plein de petites fonctions comme ça donc qu'ils ont remplacées, qui étaient déjà présentes hein, sur le 10R l'an dernier. Ils avaient commencé là-dessus. Mais ouais, moi, pour moi, c'est un vrai défaut de ce modèle. Et je comprends, il y a des gens qui m'ont dit, je passe pas à cette version à cause de ça. J'attendrai qu'ils le remettent. Bon.
Moi, j'étais surpris parce que je n'utilisais pas le 3D Touch, mais par contre, c'est vraiment ce qui m'énerve, par exemple, quand je le consulte mes mails et qu'il y a des longs mails avec plein de liens, des choses comme ça. Je n'arrête pas d'ouvrir des fenêtres par inadvertance parce que je laisse traîner mon doigt sur l'écran et donc ça ouvre une ouverture inopinée. Donc, c'est assez problématique pour moi. Hein. Ça m'a vraiment perturbé lorsque je suis passé au 11 Pro. Mais bizarrement, depuis quelques semaines, je ne sais pas si c'est dû aux mises à jour d'iOS, les accidents sont devenus plus rares. Est-ce que ça vient d'une mise à jour justement ou ça vient d'une habitude que j'ai acquise de manière inconsciente? Je ne sais pas. Laurent, de ton côté, est-ce que c'est quelque chose qui t'a frappé entre le 10S et le 11 Pro?
Alors oui, moi j'étais un très très gros utilisateur du Force Touch, hein, donc du coup, et principalement sur le clavier. Dès que je faisais une erreur, pour aller retrouver dans un bout de paragraphe que tu as écrit sur le téléphone, te déplacer, tu pouvais monter, descendre. À l'arrivée, donc à la suppression de la fonctionnalité, j'ai eu du mal à m'habituer à la barre d'espace. Je l'ai fait maintenant. Malgré tout, c'est moins pratique. Je me suis habitué, j'ai fait le truc. C'est moins pratique. Et je rajouterai un point à ce qu'a dit Didier. Comme c'est lié à la durée, il arrive parfois que tu te rends compte qu'à posteriori. C'est-à-dire, du style, tu poses la main, tu as ta main posée sur l'écran, et comme c'est sur la durée, pour peu que tu n'appuies pas assez fort et que tu déplaces un peu ta main, de temps en temps, il se déclenche quelque chose. Quelques secondes après, du coup, tu ne comprends pas pourquoi ça arrive à ce moment-là. C'est hyper frustrant.
J'aimerais
bien que ça revienne.
Toujours au registre de l'ergonomie, une des promesses d'Apple, c'était qu'ils avaient amélioré lors de la présentation de l'iPhone 11 Pro en septembre Face ID. Apple annonce un déverrouillage de 30% plus rapide, hein, ce qui est vraiment un gain important. Un meilleur résultat pour déverrouiller son iPhone, s'il est posé notamment sur le bureau, on n'a pas besoin de faire face parfaitement au téléphone et à Face ID. Moi, franchement, j'ai testé et je n'ai ressenti aucune différence avec le temps. Est-ce que c'est également un bullshit de votre côté, Stéphane?
Non, il y a une différence.
Moi, j'ai pas constaté.
Une différence quand on pose le téléphone comme ça. Moi, là tu vois, par exemple, ils sont cachés en dessous.
Ouais.
Je vois qu'il y a des petites choses qui se passent, je baisse la tête et hop, il se déconnecte. Et comme ça, j'y touche pas et le présentateur dont on fait le Mac ne m'engueule pas parce que
ouais,
je ne touche pas.
Il ne faut pas qu'il touche le téléphone. Didier, tu confirmes? Moi, je n'ai pas vraiment ressenti de différence. Est-ce que tu es comme...
C'était lunettes.
Mais moi, je trouve qu'ils auraient mieux fait de ne pas communiquer là-dessus parce que la différence n'est pas assez sensible. Et surtout, ouais. On aurait aimé qu'il marche dans tous les sens. Et moi, j'ai plein de moments aussi où il ne déclenche pas bien. Il y a certains angles qui ne marchent pas. Quand il est sur un dock, par exemple, il y a des fois, il est trop comme ça, il est trop vers la table. Et puis, j'ai aussi des moments où, quand tu as des lampes ou le soleil, tu vois, là, avec les ouais. spots et tout, où ça ne marche pas bien du tout. Et effectivement, ces améliorations, on les voudrait plutôt là, en fait.
Ouais, et Laurent, on aurait peut-être préféré qu'Apple introduise une fonction qu'on a sur l'iPad Pro pour déverrouiller en mode paysage, tout simplement, plutôt qu'en mode.
Exactement. Donc, tu parles à ma place, je rajouterai. C'était le commentaire que je voulais faire.
Bon, bah, écoute, je suis désolé.
Un
mot, messieurs, sur le nouveau design de ces iPhone Pro, même si les changements sont mineurs par rapport au 10S, le verre adopté par Apple est selon Apple le plus résistant jamais adopté par un iPhone. Mais au vu du poids d'un Pro Max, on peut s'interroger sur les effets d'une forte... une forte chute, une forte attaque sur le dos ou la face avant, qui sont intégralement en verre. Alors moi, je l'ai protégé et là, vraiment, après 3 mois d'usage, est-ce que vous avez eu des chocs? Est-ce que vous l'avez abîmé? Vous avez constaté des rayures? Laurent, comme tu n'as pas beaucoup parlé, je te laisse la parole.
Non, j'avais fait l'acquisition du verre.
Ouais.
Du coup, j'avais pris la coque translucide d'Apple, que je déteste toujours autant. Ouais. Je lui ai donné comme durée de vie jusqu'au 31 décembre. Et je me positionnerai au 1er janvier sur une autre coque parce qu'en fait, il me glisse tout le temps des mains. Et en plus, quand il tape dur parce qu'elle est assez rigide. Donc en fait, ça fait vraiment un bruit, ça fait vraiment mal quand tu l'entends tomber.
Ça absorbe
tomber régulièrement.
Pas le choc, c'est ça?
Non, exactement. Tu vois, c'est vraiment un bruit sec. Et donc du coup, je profite encore du verre jusqu'à Noël, histoire de montrer à tous les adorateurs du verre, et dont ma tante qui est une grande fan du verre. Donc je lui montrerai à Noël le verre et ensuite je repasserai sur une coque un peu collante comme les coques Apple que j'aime bien.
Stéphane, tu as constaté des petits dégâts, des petites rayures. On sait que tu es très précautionneux envers tes iPhones, mais moi, je me suis pris des dégâts d'un. Et si je n'avais pas cette grosse coque de chez RhinoShield, je pense qu'il ne serait plus là.
Oui, il y a plein, non, mais ça, c'est sûr que ça.
Vu la densité de l'engin.
Ouais, ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous allez en Apple Store, maintenant, il y a toujours la queue. Pour pouvoir installer les films protecteurs, on s'achète des coques. Donc, vu les montants qu'on dépense, on devient précautionneux. Et ça, c'est quelque chose qui est
Tu as le montant, regarde, je te l'ai mis sur l'écran de retour.
Et donc, c'est vrai que quand on veut changer un écran, là, tu me l'as donné, c'est 311 € pour un 11 Pro et 361 pour un 11 Pro Max. Ça peut être des prix inférieurs dans d'autres boutiques, mais on perd la garantie. Donc, je ne vous encourage pas de le faire. Si vous ne voulez pas faire sauter votre garantie qui est de 2 ans pour vos iPhones. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Pour moi, ça vieillit très bien. Et le vert, je le trouve magnifique. Et je suis content. Et j'espère que chaque année, Apple sortira une nouvelle couleur. Ouais. Le bleu l'année prochaine.
Alors restons sur les couleurs et sur le design ou de l'arrivée du vert, ce qui a vraiment différencié le 11 Pro et le 11 Pro Max du XS, c'est l'arrivée de 3 objectifs positionnés en triangle qui ont fait couler beaucoup d'encre car jugé inesthétique. Alors au début, on était plutôt vent debout, hein, mais à coup pas ce sujet. Est-ce que tu as évolué sur ce sujet, Stéphane?
Pour moi, ils auraient mieux fait de les mettre autrement.
Préfères qu'ils les alignent comme Samsung?
Non, il y avait Samsung qui les aligne, il y a Huawei qui les a mis en carré au milieu. Enfin bon, je trouve que... Moi, en fait, ces 3 objectifs, de toute façon, c'est un mal nécessaire. Parce qu'en gros, toute la concurrence s'est mise pour avoir ces 3 différents angles. Donc, il était nécessaire de proposer quelque chose. Eux, ils ont fait ça le triangle. Bon, pourquoi pas? Moi, je sais que c'était pas très esthétique.
Bon, moi je suis un peu revenu sur cette idée-là. Je ne sais plus à qui j'en parlais avant de
préparer cette émission. Toujours, hein.
Ouais.
Avec moi.
Avec Stéphane, non, avec Laurent. Moi je trouve ça plutôt sympa et ça va même plus loin, je crois, Laurent, pour toi.
Ouais, moi je pense qu'ils l'ont fait exprès. J'en pense qu'ils ont fait ça de façon moche, volontairement. Ouais. C'est comme le Cybertruck d'Elon Musk, de Tesla qui sort et ça choque les esprits. Au final, tout le monde ne parle que de ça. Et en fait, dans l'imaginaire collectif, ce truc-là, c'est le truc qui marque. Tu le vois, c'est un iPhone. C'est impactant. C'est le truc que tu sais que c'est un iPhone. Et donc, du coup, c'était les seuls à l'avoir fait aussi moche, avec franchement, plus sur les couleurs un peu foncées, qu'il y a du noir, du vert, du blanc, qu'il y a le micro, qu'il y a le truc. Et je pense que c'est volontaire. Je pense qu'on est vraiment dans une démarche purement...
Oui, pour marquer une signature de marque. Moi, ce qui m'a vraiment lassé, qui me lasse maintenant, mais je suis un peu un enfant gâté, puisque l'iPhone, je change tous les ans, c'est l'encoche sur la face avant. Didier, la rumeur annonçait l'arrivée d'une version plus réduite, que suive la tendance de Samsung, où il y a juste, par exemple, un œil ton, même si ce n'est pas aussi évolué en termes de technologie reconnaissance faciale. Il n'empêche que voilà, ça lasse un peu à force cette large encoche.
C'est surtout que ça disparaît sur Android assez vite finalement. Je ne pensais pas que ça disparaîtrait si vite. Ils ont fait même le choix des fois de pas forcément mettre justement ces capteurs de reconnaissance faciale plutôt que de mettre un grand écran. Après, c'est vrai qu'il y a 2 problèmes. C'est qu'effectivement, il faut qu'Apple agrandisse un petit peu ses téléphones aussi pour pouvoir mettre peut-être la lignée de capteurs au-dessus et que ça ne fasse pas trop, trop de bord. Et justement, ce problème
ou derrière l'écran.
Je trouve que là, le téléphone n'est pas si gros que ça et le bord est gros en fait. Et du coup, ça fait un effet quand même. Enfin, moi, je dis toujours aux gens, allez voir les téléphones. Si vous utilisez que les iPhones, allez un peu à la Fnac ou sur des présentoirs, regardez les Android, ils ont quand même ils font beaucoup plus moderne avec leur bord plus fin et l'absence d'encoche. Alors donc là, c'est un tout et la face avant n'a pas changé quoi, vraiment pas, ça fait quelques générations là qu'on.
Et là on voit le Galaxy Fold pendant que tu parlais Didier de Samsung. L'iPhone par définition c'est vraiment un téléphone statutaire. Là tu l'as testé, tu l'as avec toi Stéphane. On est vraiment dans un univers design tout à fait différent. L'écran pliable, tu l'utilises depuis quelques jours maintenant. Mm. Est-ce que tu penses que ça va beaucoup plus loin? C'est beaucoup plus innovant qu'un iPhone 11 Pro aujourd'hui? Ou ça reste encore une démonstration technologique de la marque coréenne?
Je pouvais en penser à en parler un petit peu plus.
Non, c'est maintenant.
Un peu plus tard dans l'émission, dans les coups de cœur, parce que ce sera mon coup de cœur. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement novateur. Parce que là, quand même, là, j'ai le déroulé de « On refait le Mac ». Je peux l'observer et le lire.
Comme de façon une tablette, en gros.
C'est mieux qu'une tablette pour moi, parce qu'il n'y a pas la difficulté d'utilisation. Mais regardez juste Instagram en version carré et grand, comme ça, mais c'est magnifique. Mmh. En gros, je vous parle même pas si vous regardez du Netflix ou regardez une vidéo sur YouTube. En particulier non,
sans doute pas que d'avoir un écran plus grand, c'est un avantage.
Non, mais le fait de le faire comme
voit,
ça.
Les écrans grandissent de génération en génération, mais est-ce que ça te donne plus envie aujourd'hui d'utiliser ce produit-là qu'un iPhone 11 Pro? C'est ça l'idée.
Moi, j'ai mon opinion, c'est qu'il y a iOS qui fait la différence.
Ouais.
Et donc, tant qu'il n'y aura pas iOS qui sera portable sur ce type d'appareil, que ce soit les Huawei ou quoi que ce soit, donc déjà, d'office, il y aura un blocage pour moi.
Mais est-ce que le produit te semble fini, abouti, non. ou c'est une démo techno?
C'est une très bonne première version.
Ouais.
Et ce que je pense dire, et je voulais dire tout à l'heure pour le coup de cœur, c'est que quand on fait un coup de cœur, on est surpris, agréablement surpris, parce qu'on a peut-être un a priori négatif.
Coup de cœur, on peut cacher quelques défauts, parce que voilà,
bien évidemment, mais
l'affection et l'amour remportent sur le reste.
Ouais. Mais en tout cas, je peux vous dire, c'est vrai que c'est une véritable nouveauté, ça c'est certain, et il me semble que beaucoup de la nouvelle génération, en tout cas mes fils, dès qu'ils l'ont vu, ils l'ont adopté pour eux comme si c'était naturel.
Ouais.
Donc en toute franchise, je dis pas que c'est l'avenir de la téléphonie, les écrans pliables, ça coûte relativement cher. Celui-là, il vaut 2000 euros quand même.
Ouais, mais ça va baisser.
Ça va prendre du temps. Hein.
Ouais. Didier, on l'a dit, l'iPhone n'a pas évolué de manière majeure depuis maintenant presque 3 générations, hein, depuis l'iPhone 10. Ça va faire 3 ans en septembre prochain. Là, Apple n'aura pas trop de choix que de casser un petit peu son design en septembre prochain, Didier.
Et ouais, mais il y a beaucoup de choses à faire avec la 5G. Là, est-ce qu'ils auront le temps vraiment de faire ça? Et puis, est-ce qu'ils ont vraiment les moyens? Parce qu'ils sont aussi très exigeants, c'est-à-dire que ces systèmes d'encoche et tout, c'est parce qu'ils mettent aussi beaucoup de choses derrière. Là, ils veulent encore rajouter des capteurs. Hein. Quand tu regardes les rumeurs, c'est les capteurs temps de vol, là, tous ces trucs-là, ça va demander encore un petit peu de place. Donc, moi, je pense qu'on va avoir des iPhones un peu encore déformés, comme ça, un peu Frankenstein pendant encore quelques années.
Ouais. On ne va pas passer à l'écran pliable tout de suite. Donc, là.
Non, bord à bord, 100% peut-être.
Il y a Monsieur Motorola qui vient d'être présenté, qui est vraiment pas mal aussi. Le nouveau Razer qui est assez étonnant. Allez, un mot au sujet de notre sponsor SanDisk qui commercialise l'Xpense Wireless Charger. Regardez, il est à côté de moi. Un chargeur à induction pour faire le plein de la batterie de votre iPhone et sauvegarder automatiquement ses photos. Il intègre en effet un SSD de 128 ou 256 Go pour archiver tous les clichés ou vidéos en plus de recharger tous les iPhones de la famille. Sans avoir bien sûr à s'abonner à un service dans le cloud. Pour copier ces photos, c'est très simple. Il suffit de poser le téléphone sur le chargeur pour qu'elle soit automatiquement copiée dans le SSD intégré. C'est très simple. Et c'est SanDisk qui fait ça. Voilà. Et en plus, vous rechargez votre téléphone automatiquement en même temps que vous le sauvegardez. Retour à présent sur le second point fort de cet iPhone 11 et 11 Pro. Vous l'avez publicité dans notre sondage, ces nouveaux objectifs qui améliorent grandement la fonction photo. Photo, vous êtes et nous sommes unanimes, le pari est vraiment réussi. Ce n'était pas gagné à l'origine, hein. C'était la nouveauté la plus visible et la plus mise en avant par Apple. Bien sûr, donc c'est la fonction photo avec l'arrivée de nouveaux objectifs, on en a parlé. Nous l'avons déjà dit, l'iPhone 11 Pro dispose non pas de 2 mais de 3 capteurs, un ultra grand angle, un grand angle et un téléobjectif de 12 millions de pixels. Et ce qui est vraiment, moi je trouve vraiment utile au quotidien, c'est l'arrivée de ce fameux grand angle, ultra grand angle, Didier, ça change vraiment. La donne. D'ailleurs, nous avons une question, on regarde de Phil sur Twitter. Avez-vous des déformations avec l'ultra grand angle? Car moi, c'est horrible. Est-ce que tu l'as constaté, ce petit défaut optique qui est propre à tous les grands angles? Ultra grand angle, Didier.
Oui, parce qu'il est très très grand angle et en plus comme c'est un petit capteur, il faut que. D'ailleurs, on voit des fois t'as un petit peu ton pouce si tu le mets trop près, donc il faut vraiment que ça prenne le champ. Donc oui, c'est pas fait pour faire de la photo avec des belles parallèles et tout, de l'architecture. C'est fait pour tu mets ton appartement sur Airbnb. Là, l'autre jour, tu vois, j'avais une fuite d'eau et je voulais envoyer donc à la personne qui s'occupe de mon appartement, voilà, une photo de ça et j'avais pas beaucoup de recul et vraiment je me suis dit tiens là c'est un des exemples pour lesquels je suis vraiment content d'avoir un iPhone parce que sinon j'aurais dû faire plusieurs photos, essayer de me débrouiller un petit peu comme ça. Et c'est vrai que c'est un atout. Après, est-ce que ça te change la vie? Je sais pas, ça dépend un petit peu de l'usage que tu as de la photo.
C'est vraiment pratique. À la manière dont tu l'as illustré, j'étais toujours, notamment si vous faites pas mal de photos comme ça dans des endroits un petit peu confinés, ça, c'est vraiment pratique au quotidien, y compris en mode portrait, puisque mode portrait, même si c'est une fonction numérique, quand vous basculez le téléphone en mode paysage, vous avez un mode grand angle également, donc pour les selfies c'est plutôt sympa, mais c'est vrai que quand tu es dans un endroit assez confiné et donc assez petit, que tu utilises le grand angle, il y a des petites déformations, mais regardez sur cette photo qui était prise en notre plateau, qui est un peu plus grand maintenant, on a cette chance-là, lors de notre émission Shopping de Noël, où l'on dispose d'un bon recul, regardez, on ne voit pas forcément de déformation, et là on arrive à voir tout le champ de vue du studio en une seule prise de vue, c'était carrément impossible de l'avoir. Et auparavant, c'était un vrai avantage qu'avaient les téléphones Android par rapport à Apple. Au-delà, regardez ces photos prises par notre ami Emmanuel Pampuri en plan large. Hein, c'est vraiment remarquable. Regardez encore une fois. Moi, je suis assez bluffé par ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Je vous invite à regarder notre émission qu'on a consacrée justement. Est-ce que l'appareil photo de l'iPhone va remplacer l'appareil photo classique? On a une émission passionnante avec lui notamment. Regardez également ces clichés de nuit. Le mode nuit était également une avancée majeure vraiment de cet iPhone 11 Pro et c'est vraiment impressionnant encore une fois. Tu confirmes, Laurent, de ton côté peut-être, ou Laurent ou Didier?
Moi, je me suis surpris à prendre des photos en me disant, tiens, je voudrais bien en prendre un peu plus et hop, du coup, basculer sur le grand angle. Encore une fois, ce que je trouve génial, c'est l'ergonomie d'iOS dans l'utilisation. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es en train de prendre une photo avec le petit normal, tu vois, sur le bord de l'écran, en moiré ou en légèrement grisé, ce que ça te donnerait sur les deux côtés, finalement, si tu passes en grand angle. Et en fait, ça te pousse à utiliser le grand angle.
Ouais,
c'est ça que je trouve génial. Encore une fois, ils ont... Mais ouais, c'est ça. Encore une fois, Apple est arrivé avec un usage qui est hyper intéressant. Et ça, je trouve ça génial.
Ouais, Stéphane, depuis plusieurs années, quand tu faisais des clichés pour lors des tests pour cette émission des différents iPhones, tu pointais du doigt les problèmes en basse lumière de l'iPhone. Là, il y a un vrai progrès. C'est même trop frustrant.
C'est même trop limite, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que le principal retard qu'ils avaient a été atteint. Là. Ils ont, en gros, Android est pour moi toujours encore un peu meilleur. Le Samsung S10 pour moi et le Huawei P30 et le Mate, même si on ne va pas trop le voir celui-ci, et ben ceux-là sont quand même un peu en avance de façon globale, mais sur certains points l'iPhone est meilleur, le mode portrait il est meilleur, sur le mode nuit il est équivalent voire même meilleur sur certains clichés, pour le grand angle, l'ultra grand angle, c'est intéressant également, même si je pense qu'il y a certaines déformations qu'un Twitos nous a fait part. Bah c'est quand même parfois un petit peu désagréable, donc on revient sur un angle moins grand angle en tout cas. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a un énorme rattrapage qui a été fait. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Apple. Tout ça parce qu'en plus, comme l'a dit Laurent, c'est vrai qu'iOS et la galerie et tout ce qu'on peut faire avec est bien meilleur que ce qu'il y a sur Android. Ça, c'est indubitable. Et donc maintenant, je pense que la bataille est lancée. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir la prochaine fois? Il me semble, d'après ce que j'ai cru entendre, que Samsung allait taper un grand coup pour le premier objectif et ils allaient au-delà de 100 pixels, 100 mégapixels, pour mettre un grand coup sur la concurrence.
Par contre, là, ton Fold,
c'est pas fait pour ça. Non.
Pas du tout taillé pour ça.
Ce sera pour le prochain Galaxy qui sortira en février-mars.
Ouais, en termes de photos, c'est pas le mieux doté. Regardez encore ces clichés tirés de notre émission dont le sujet était justement l'iPhone a-t-il tué le réflexe une caméra pro. Hein. Je vous invite vraiment à regarder en compagnie d'Emmanuel Pampuri. Emmanuel avait utilisé donc son iPhone 11 Pro Max et un appareil professionnel, c'était l'hybride Lumix S1 de Panasonic. Donc, c'est vraiment un gros appareil. Regardez le plan de gauche et le plan de droite. D'après vous, messieurs, puisque vous n'étiez pas là lors de l'émission Vilain Petit Canaillou, en mode plan large, d'abord, laquelle est-elle prise à l'iPhone? Celle de gauche ou celle de droite? On commence peut-être avec Stéphane en plateau.
Donc, je regardais sur l'écran. Elles sont très, très proches. C'est même...
Alors?
C'est très, très, très proche.
Alors?
Allez, je dirais... Je regarde par rapport au ciel, la couleur du ciel, je dirais elle est celle de droite.
Celle de droite prise avec l'iPhone. Eh bien non, celle-là est prise avec le Panasonic. L'iPhone est à gauche. Autre plan, regardez un mode portrait ensuite. Laquelle est-elle prise avec l'iPhone, celle de gauche ou celle de droite? On va poser la question à Laurent.
Celle de gauche.
Ouais, Didier, tu confirmes celle de gauche ou celle de droite?
Oui, puisque le bokeh et puis celle de droite, on semble.
C'est quand même assez. Ouais, c'est juste
là, sur ces photos-là, t'as du mal à tricher quand même.
Ouais, mais c'est quand même assez. Bluffant le progrès qui a été fait. Ouais, quand on compare les deux, même si on zoome, hein, vous êtes nombreux à nous dire, mais si on zoome dans la photo, on fait l'impression photo. Je vous garantis, même si vous zoomez, vous ne voyez pas de défaut majeur. C'est quand même assez bluffant, Didier et Laurent, les progrès qui ont été faits sur cette génération d'iPhone 11 Pro. Et rien que ça, franchement, si vous faites beaucoup de photos et de vidéos, et si vous avez déjà un 16, je vous conseille de changer. Vous n'allez pas être déçu, hein, franchement, Didier.
Oui, bah, ça dépend ce que tu fais. C'est-à-dire que pour le capteur principal, il n'a pas tellement bougé, lui. Donc voilà, tous les gens qui ont, eu à partir du 10, je dirais, le capteur principal, il a augmenté légèrement de taille avec le 10S, donc il y a eu quand même des progrès. Et si t'enlèves hein, ce côté grand angle et ce côté photo de nuit, moi je trouve que voilà, on n'a pas fait un saut majeur. Le saut majeur prochain, il sera quand même, je pense, plus avec l'augmentation des capteurs. Et d'ailleurs, il y a des téléphones Android qui se débrouillent mieux parce qu'ils ont un capteur un petit peu plus grand, donc qui récupère un petit peu plus de lumière. Donc voilà, et effectivement, il y a eu aussi les avancées là avec le. Je sais plus comment ça s'appelle, le Deep Fusion, voilà, ouais. Qui permet de prendre.
Qui est arrivé ouais, entre temps, au mois d'octobre.
Voilà, qui était. Bon, c'est pas toujours simple de voir hein, la différence, puisqu'en plus, voilà, il faut avoir le même téléphone avec une version d'iOS précédente. Enfin bon, pour comparer, c'est assez difficile, mais c'est vrai que sur les poils, sur les choses comme ça, ils ont fait aussi de la photo calculée, hein, qui est un petit peu plus efficace. Donc en augmentant aussi la performance de ton téléphone, tu vas gagner un peu en qualité photo, ce qui est quand même assez intéressant. Mais voilà, ceux qui ont des 10, 16, je dirais que c'est quand même pas non plus énorme en termes de différence. Hein.
Ouais. On a une question, on regarde sur Twitter de Lorient Yannick. Bonjour à tous, l'iPhone 11 Pro Max est-il vraiment fait pour filmer comme une caméra ? Alors, je vous invite à nouveau à regarder l'épisode 351 où on le recevait en plus d'Emmanuel Pampuri, Guillaume Custer qui est formateur chez Tarka Media et qui forme les équipes de France Télévisions pour filmer à l'iPhone. Mais également Bertrand Samemi, hein, le fondateur de City Pro, qui lui propose une solution et une app iPhone pour filmer pour les télévisions professionnelles. Et il a équipé notamment BFM TV Paris. Et puis, on attend tous Filmic Pro hein, qui ne devrait pas tarder, Didier. Hein.
Oui, Olivier, depuis le temps qu'on l'attend ce Filmic, moi j'espère vraiment qu'il va arriver vite, mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même du mal à tenir leur promesse d'avoir tous les flux en même temps. Alors il y a des petites applis, je sais pas si tu as vu sur l'App Store qu'on fleurit, qui sont pas aussi abouties que Filmic, mais qui proposent déjà d'avoir plusieurs flux en même temps. Alors tu peux pas forcément bien les enregistrer et tout, je pense qu'il y a quand même pas mal de boulot là-dessus. Des applis de développeurs indépendants qui ont juste utilisé les API d'Apple pour afficher des flux vidéo, tu vois, que tu es les trois en même temps. On pourra mettre des petits liens éventuellement.
Ouais, on voit sur la vidéo, c'est la promesse marche. De Filmic, hein, en quelques mots, Didier. Hein.
Oui, mais Filmic était censé pouvoir pouvoir t'envoyer les flux, enfin récupérer les flux indépendamment. C'est-à-dire, tu filmes, tu as par exemple le plan large et puis le plan serré.
C'est comme plusieurs pistes c'est ça audio pour un séquenceur audio, hein, c'est ça pour l'enregistreur voilà. Audio.
Mais c'est révolutionnaire, au lieu d'avoir quatre caméras, on n'en a plus qu'une.
Là, encore une fois, on voit bien que ça soit peut-être avec Laurent parce qu'il n'a pas parlé sur ce sujet-là. Beaucoup de gens nous demandent sur Twitter est-ce que je dois abandonner mon 10R, mon 10S pour passer au 11 Pro. Si vous êtes fan de photos et vous faites un peu de vidéo, vous êtes initié au podcast, c'est vraiment ou à YouTube, c'est vraiment l'appareil qu'il vous faut.
Ouais, je pense que c'est un bon appareil. Ce qui est intéressant, et on en discutait il y a quelques jours ensemble, quand on regarde aujourd'hui sur la fin d'année, donc tout le monde dit bon, voilà les produits qui ont un peu marqué, qui ont marqué l'année. Auprès des experts et des photographes, des grands photographes américains qui ont des chaînes YouTube à plusieurs millions d'utilisateurs, tous citent l'iPhone 11 Pro dans la liste des choses marquantes. Alors bien sûr, les questions qui jaillissent, c'est en disant quand on est photographe professionnel, qu'on a des appareils photo à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de dollars ou d'euros, comment un iPhone ? Et ils disent qu'en fait, dans l'usage de tous les jours, ça facilite la photo, quoi. Tu dégaines ton téléphone, tu prends une photo, tu sais que la photo, elle va être soit par la dimension diffusion, soit juste par la qualité de l'OS, soit par truc, être capable de prendre une photo rapide, de faire des préparations, de montage, de choses. Et donc, du coup, ben, de plus devoir te trimballer toute une partie matérielle. Ça ne le remplacera pas, c'est pas la même chose. Mais si on prend le commun des mortels dans l'usage, c'est pratique. Je discutais la semaine dernière avec un professionnel de la certification, donc tu sais, dans les boîtes qui font des audits. Il me disait qu'aujourd'hui, avec le grand angle de l'iPhone, c'était devenu son seul outil. Il ne se trimballait plus d'appareils photo. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'appareils photo, quoi qu'il en soit, non réflexe, qui permettaient d'avoir un grand angle comme ça dans le téléphone, dans l'appareil photo.
C'est donc, clair, il me disait,
aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut.
Ouais.
Ouais. Mais dégaine, un coup de pouce et ça y est, je prends la photo. Et c'est exactement ce qu'il disait tout à l'heure Didier avec sa fuite d'eau. Déplore.
Et au-delà, l'œil du photographe est toujours là, hein, qu'on soit photographe professionnel ou pas. C'est ça qui fait vraiment la différence, peu importe le matériel. Mais en termes de ce qui est vraiment marquant avec cet iPhone et ces smartphones de manière générale par rapport aux appareils photo professionnels, c'est que bien sûr, il faut toujours avoir l'œil expert et que vous ayez un iPhone ou un appareil classique eh bien, il faut toujours déclencher au bon moment, je dirais. Mais au-delà, ce qui fait vraiment la différence, c'est la simplification, de l'optimisation de ces photos, c'est l'intelligence artificielle. Je suis mieux passé pour moi pour en parler, Laurent, qui fait que la photo est automatiquement optimisée et Stéphane se met à faire des photos.
En grand angle.
Voilà, en grand angle. Mais et c'est ça qui est remarquable. C'est-à-dire avant, il fallait passer la photo, la traiter dans Lightroom ou dans Photoshop. Et là, automatiquement, on se retrouve avec une photo qui est exploitable d'une grande qualité, parfois même un peu trop, qui la magnifie. Et c'est ça qui est vraiment nouveau et dont les constructeurs d'appareils photo classiques, je dirais des Reflex et des hybrides, ont un peu de mal à appréhender aujourd'hui. Du moins pour conquérir le grand public. Assez parlé du photo, vous avez bien compris la photo, vous avez bien compris que c'est vraiment une de ses qualités. On va conclure sur ce qu'on considère 3 mois après sa sortie, quels sont encore les manques marquants de cet iPhone 11 Pro. Quels sont les manques donc de cet iPhone 11 Pro? Question Twitter de Julien Serre. Son seul gros défaut d'après lui après 3 mois d'usage et qui n'a pas de port USB-C. On est tous d'accord, messieurs, sur ce sujet. Peut-être Stéphane. Oui. Voilà, l'USB-C sur le Galaxy Fold, c'est une de ses forces.
Le Huawei également, l'iPad Pro également. Bon, j'espère que c'est la dernière fois où on aura encore du Lightning.
J'ai peur que ce ne soit pas encore la dernière fois. Mais bon. Il y a quelques rumeurs, Didier, sur la disparition du port pur et simple. On a vu ça.
Exactement.
Mais ça paraît pas totalement... Enfin, connaissant Apple, ils seraient capables de le faire.
C'est-à-dire plus Lightning, comme ils ont supprimé le jack.
Le problème, c'est que si tu fais ça, il faut quand même que tu aies une solution de charge rapide aussi, parce que le sans-fil rapide, pour l'instant, bon, on arrive un peu à le faire, mais il y a quand même beaucoup de déperditions. Puis, tu vois, c'est pas simple, tu vas pas te balader avec toi avec un chargeur sans fil. Donc moi, j'y crois moyennement, et je penche plus pour l'USB-C quand même, qui me paraît le meilleur compromis aujourd'hui, parce que ça devient casse-pied. Mais là, en fait, c'est casse-pied surtout, parce que là, ils te sortent des casques Beats, là, des trucs comme ça, ils sont tous pas en USB-C. Je comprends pas ce qui se passe. Il n'y a pas un usage Lightning et un usage USB-C.
Non, mais ils verrouillent leur marché. Hein, et leur,
oui, non, mais c'est que financier, ouais, évidemment.
C'est bien dommage. Quand Apple privilégie la finance à l'usage et à l'intérêt de ses utilisateurs. Alors, on avait pointé du doigt, Laurent, une grosse inquiétude au moment où l'iPhone est sorti, là, au fond, 11 Pro, au mois de septembre, c'était bien sûr iOS 13, qui était vraiment buggé en septembre dernier, et on s'inquiétait tout au long de l'été ensemble du nombre de bugs qu'il y avait dans les versions bêta. Est-ce qu'après les 3 mois, tu trouves que les choses se sont améliorées, que finalement ce qui était vraiment son talent d'Achille, à savoir iOS 13 qui posait quelques soucis, ça s'est amélioré au fil des mises à jour tout simplement, Laurent?
Alors, la réponse est oui. Aujourd'hui, j'ai plus de points vraiment bloquants. Mais par contre, tu vois, moi qui suis un grand, grand fan des versions bêta, tu vois, de tester en bêta, ben, je n'ai pas passé en bêta. J'ai un autre iPhone pour tester les bêtas. Parce que tu vois, j'ai vraiment, vraiment été échaudé. C'est-à-dire que sur iOS 13, ça a vraiment... Le niveau du bug a vraiment été mis assez haut. Bon, il reste des tout petits bugs hein, par-ci, par-là, mais pas. Il y avait encore des problèmes de calage d'écran.
Ouais,
sur
notamment, il part en vrille quand même. Hein. Le mien, de temps en temps, il part en vrille. On sent que, comme je fais des sauvegardes et j'upgrade depuis le premier iPhone, hein, je n'ai jamais remis à zéro. Donc, de temps en temps, il y a des ralentissements et on sent qu'il a un peu de mal, même si c'est un modèle qui est quand même bien doté en mémoire. On sent qu'il y a eu un saut qui a été fait en termes d'exigence, puissance matérielle sur ce produit-là. Et que de temps en temps, iOS pédale dans la semoule. Une fonction qui nous avait beaucoup intrigué lors de l'émission qu'on avait fait à la rentrée, souviens-toi, juste avant, Didier, la sortie, l'annonce de l'iPhone 11 Pro, c'était la présence d'une puce ultra-wideband qui était appelée U1, une puce qui permet de faire de la géolocalisation. Elle n'est toujours pas active hein, pour le moment, Didier.
Si, elle est active dans AirDrop. Si tu fais un petit AirDrop, tu diriges ton téléphone vers l'autre. Ça marche, oui, ça marche pas à 100%.
Ouais, c'est transparent, on le voit pas vraiment. Mais la promesse d'Apple lors de la WWDC de dire on va vous aider à retrouver vos téléphones qui sont volés, c'était pas encore le cas.
Mais alors, ce truc-là, c'est très compliqué. Moi, j'ai pas encore pris le temps de bien le tester, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne encore.
En fait,
Non, mais il y a quand même deux choses. Hein. Il y a cette histoire d'iPhone perdu où il va utiliser tous les autres téléphones, donc ça qui est effectivement une fonction promise et elle est sur les pages de support d'Apple, donc c'est censé marcher. Et puis il y a cette puce justement qui permet de géolocaliser, qui serait très bien couplée en fait à ces Apple Tags qui devraient sortir, donc ces petits tags que tu pourrais mettre un peu partout, je sais pas, dans ton sac, etc., qui pourraient permettre de géolocaliser tes produits.
Ouais, là, ils n'utilisent pas le GPS, hein, c'est bien ça, c'est vraiment une bande
c'est de la géolocalisation exactement, qui se déroule à l'intérieur de la maison, et c'est vraiment, il faut que tous tes appareils soient équipés de cette puce pour que ça marche aussi, évidemment. Donc là, de toute façon, le spectre est limité, mais par contre, ils n'ont pas dit, tu vois, dans tous les Macs qu'ils ont sortis, les accessoires là, qu'ils ont sortis récemment, a priori, elle n'y est pas, cette puce, alors que tu t'attendrais à la trouver. Et alors, il y a eu encore une dernière info autour de ça, c'est qu'apparemment, elle a posé quelques problèmes de sécurité aussi récemment. Donc voilà, je sais pas, c'est un petit peu le flou encore. Peut-être que c'est un peu tôt encore pour en parler vraiment, quoi.
Ouais, encore des soucis, encore après l'AirPower, un peu de mal avec cette techno-là. Mais c'est vrai que c'est une belle promesse, du moins sur le papier. À propos d'AirPower, une des rumeurs et une des attentes qui explique qu'on ne le voit pas sur le mien, parce que j'ai une housse. Rinoshi, mais peut-être sur le tien si on le montre, le logo Apple a bougé au dos de l'iPhone, elle est maintenant au milieu, si tu veux montrer le tien Stéphane, un peu plus, voilà, au milieu, qui laissait penser, et il semblerait que ça soit le cas, qu'il y a un système de recharge inversé qui est propre notamment à Huawei et à Samsung, et c'est vraiment très pratique. Est-ce que ça te manque quand tu veux recharger tes AirPods Pro par exemple, ou tes AirPods sur ton iPhone?
Avant, le nombre de fois où j'ai rechargé mon iPhone grâce à Huawei, ça arrivait avant.
C'était ta batterie d'appoint.
C'était ma batterie, en effet, oui. Maintenant qu'on n'a plus de problème de batterie pour ça non plus, et même pour les AirPods, comme ils ont amélioré aussi la batterie depuis la précédente version et encore plus avec la version Pro, j'ai plus de problème particulier, on va dire. Mais ce qui est juste, si c'est juste logiciel et qu'ils ont préparé le matériel, ce serait une bonne surprise un jour. Mais là, je sais que là, ils ont sorti ce matin la 13.3.
Ouais.
Je ne sais pas si vous avez souvenir qu'il y ait eu une aussi grosse
mise à jour
en point 3 à ce stade de l'année.
Ça s'accélère. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bugs.
De bugs, bien sûr. Mais d'habitude, tu sais, le numéro de version est toujours intéressant. Les 13.3, c'est en gros une évolution majeure avant d'arriver à la 14, tu vois.
Ouais.
13.3. Et il me semble que les 3, ça arrivait plutôt vers le février-mars, quoi. Et
là, il a totalement raison, Stéphane. Il y a quand même eu une avalanche de mises à jour. Donc, on parlait des bugs. C'était la cata quand même pour eux cette année. Alors, heureusement qu'ils ont fait ces mises à jour parce que sinon, on serait encore en train de râler. Mais c'est vrai que ça a pu refroidir aussi les gens, même qui passaient à l'iPhone et tout, hein, qui ont vu plein de mises à jour comme ça débouler à la suite, quoi.
Mais je peux juste, je termine sur les mises à jour. C'est vrai que il y avait plein de bugs. Au moins, ils ont le mérite de réagir vite. Il y a eu des trucs de sécurité, etc. Parfois, on avait même des mises à jour en 48 heures. On avait une nouvelle mise à jour. C'est quelque chose qui est peut-être bien et qui montre que Apple réagit vite. Peut-être qu'on va se retrouver avec une 13.5 ou 6 avec cette charge inversée.
Et voilà,
ça sera la surprise.
C'est ce qu'on disait, Laurent, lors de l'émission sur comment bien utiliser son batterie. Je vous invite également à regarder cette émission parce qu'elle est vraiment très intéressante. On avait reçu Sylvain Penaud, qui est le responsable, entre autres, du futur et des investissements futurs dans les startups et de Schneider Electric, si je suis arrivé. Et d'après lui, effectivement, à partir du moment où il y avait des éléments, des indices qui laissaient penser qu'Apple avait prévu ce système-là, il faut attendre une prochaine mise à jour. Mais c'est assez étonnant qu'ils n'ouvrent pas les robinets, Laurent.
Effectivement, les composants laissent à penser que la recharge inversée est possible. Donc, logiciellement, ça pourrait être débloqué. On n'a pas de preuve que c'est impossible. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait avoir une bonne surprise.
Alors, dernière question sur Twitter, si on a le temps. Et on a le temps. Il s'agit de question de Nathan. Question toute simple. Avez-vous pris un plan Apple Care, donc l'offre d'Apple qui permet d'étendre la garantie de ces appareils? Et quel est votre daily case? Pour le daily case, tu as répondu, Laurent. Didier, qu'en est-il de ton côté? Est-ce que tu prends de l'Apple Care? Est-ce que tu conseilles de prendre l'Apple Care sur un iPhone contrairement à un Mac, par exemple?
Alors, moi, je pense que les Apple Care, de manière générale, bon, les pros, des fois, les prennent par mesure de sécurité, voilà. Mais c'est vrai que je pense que, vu que c'est très cher, il faut le prendre que quand le risque est élevé. Par exemple, je regardais il n'y a pas longtemps sur les iPads Pro, là, tu casses l'écran. C'est entre 500 et 700 euros.
Je sais.
C'est-à-dire que si t'as pas l'Apple Care,
et
en plus, il te le répare pas, il te le change.
Ouais.
Et là, vraiment, je trouve, hein, c'est inadmissible de proposer des écrans aussi chers, évidemment, mais c'est vrai que là, dans ce cas-là, l'Apple Care, il peut valoir le coup si c'est vraiment ton appareil quotidien et que t'as pas forcément le budget, tu vois, pour t'en racheter un et de prendre le risque quelque part. Sur les iPhones, les prix des écrans aussi ont pas mal explosé. Donc, effectivement.
Pour les 300 euros, hein, pour un iPhone.
Si t'es du genre à casser ton écran, ça vaut. Ça vaut le coup. Mais moi, tu vois, j'aimais beaucoup utiliser les téléphones sans housse. Et là, depuis l'iPhone 10, je n'ose plus parce que vraiment, avec le verre de partout et puis le poids qu'il fait, donc je mets ces housses-là. Et moi, j'essaie
Les housses d'Apple, ça, c'est ça que tu utilises?
Oui, parce que je trouve que celles en cuir, par exemple, Elle est assez fine, contrairement. Alors, je sais qu'il y a, il y a un certain nombre de. Bah, tu vois, regarde, je prends une Rhino Shield. À côté, t'as des bords de malades.
Ouais, mais ça
et
protège.
Ça, moi, dans
ça
la protège. Poche, voilà, ça protège. Ouais, mais celle-là, franchement, je l'ai fait tomber plein de fois, même sur le béton et tout. Et elle est suffisamment bien faite pour avoir. Ouais, tu vois,
c'est
les
pas le
bords
même prix. Un et deux, je trouve qu'elles vieillissent vachement mal, les housses en cuir.
Bah, regarde, c'est tout patiné, c'est tout beau.
Ouais, mais attends, beaucoup. Elle a trois mois. Regardez, au bout de trois mois déjà. Imaginez dans un an.
Non, alors, elle suit assez bien, celle-là. Celle en cuir, franchement, ça va. Et je trouve que c'est le meilleur.
Celle en silicone, c'est pas mieux, hein, Laurent. Souviens-toi, tu m'avais montré celle de ton précédent modèle. Elle part en petits morceaux assez rapidement, alors qu'elle vaut 70 ou 80 euros. Hein.
Ouais, ouais. Mais c'est, donc 49 ou 59, pas autant que ça. Mais c'est hors de prix. C'est hors de prix pour ce que c'est hors de prix pour la valeur intrinsèque du produit. Quoi. Le coup de silicone, le moule, le machin, vu la quantité qu'ils en vendent. Moi, je les trouve bien. Je les trouve bien parce que je les trouve collantes, elles tiennent dans la poche, le téléphone sonne pas.
Ouais, mais elles sont fragiles.
Et c'est sont fragiles. Pour
si vous enlevez souvent
sur
votre iPhone, par exemple, pour le charger ou pour
tu
nettoyer,
quoi
elle finit par casser.
Quoi en bas.
Ouais. Ouais, systématiquement.
Pour revenir sur l'Apple, ouais. Sur l'Apple Care, il y a un truc qui est intéressant. L'Apple Care n'a aucun intérêt pour le rallongement de la vie, de la garantie, hein, de l'assurance. Il n'a d'intérêt que pour le changement du téléphone. C'est typiquement l'écran. On est dans ce qu'on appelle en économie sur une courbe en baignoire. C'est-à-dire que les téléphones, c'est comme les disques durs qu'avait fait l'étude qu'avait fait Google sur les disques durs ou sur les téléphones. Tous les biens où il y a de la technologie tombent en panne soit très vite, soit très longtemps après la garantie qui est proposée, c'est-à-dire 3 ans, 4 ans après. Donc du coup, prendre une assurance produit pour ta télévision, par exemple, entre la fin de la garantie, c'est-à-dire un an dans la majorité des pays, deux ans en France, et cinq ans, c'est stupide. Dans le cas d'Apple Care, la grande question à se poser, c'est qu'il peut y avoir un intérêt, effectivement, comme le disait Didier, sur la casse. Si la casse est prise en charge, parce qu'à un moment donné, il y avait des Apple Care où c'était évité, maintenant, ce n'est plus le cas, donc voilà.
Ouais, il vaut mieux privilégier Apple Care pour un ordi ou pour un iPad. Stéphane, toi, au niveau des cases, qu'est-ce que tu conseilles?
Cases, je ne suis pas un bon exemple, mais donc c'est vrai que moi, j'ai priorisé le côté vert, nouveau, etc. Donc depuis, je suis passé.
Tu veux le montrer?
Non, mais je voulais le voir surtout, parce que moi,
côté
ça me faisait plaisir.
Ouais.
Ah voilà, c'était important. Important, en tout cas, ça me faisait plaisir. Maintenant, bon, une fois que c'est fait et qu'on a passé à autre chose, bon, ben, soit ça arrive encore un petit peu, j'ai pas de coque du tout, comme sur le Pro Max en ce moment, ou je mets une Rhino Shield parce que je sais qu'avec mes enfants, c'est même pas la peine. Et j'ai pas trop de soucis avec, mais c'est vrai que j'en prends soin. Non, en fait, par rapport à ça, il faut vraiment trouver. Il n'y a pas que du Rhino Shield, j'ai oublié le nom de la marque qui fait ça également, parce qu'ils sont aussi, proposent des glaces de protection très, beaucoup plus épaisses que les Belkin qui sont installées chez Apple et qui sont ultra fragiles, parce qu'on a une fissure au bout du deuxième jour, pour info.
Donc il faut changer la protection.
La protection assez souvent, enfin bon, sinon ça fait un truc moche, ou même parfois on en a dans le doigt, ce qui est vraiment pas très agréable aussi. Mais par rapport à la protection.
Ça dénature le design.
Je sais, mais bon, faut bien.
Déjà, une coque, ça dénature, mais en plus, il rajoute une vitre, c'est plus.
Mais voilà, mais si c'est cassé.
C'est carrément.
Si c'est cassé.
Ça va repasser, quoi.
Mais ouais, bien sûr, mais c'est cassé, qu'est-ce que tu veux, on n'a pas trop le choix. Et non, le truc par rapport à la protection, moi, j'ai une double protection, en fait. J'ai une protection liée à un compte entreprise qui est une sorte de qui s'appelle joint venture chez Apple, qui vaut 499 euros par an et qui me permet d'avoir tous les produits que j'utilise et ceux qui travaillent avec moi également qui sont couverts. Et j'ai aussi une protection complémentaire avec une assurance qui me coûte 16,99 € où tous mes appareils en mobilité, ordinateur, console de jeu.
C'est pas Apple qui propose.
Heureusement que c'est pas Apple, parce que sinon ça serait rien. Et qui me propose et qui me permet de changer, si par exemple un écran est cassé, jusqu'à deux écrans par an entièrement remboursés. Et donc avec ça plus ça, j'ai jamais eu le moins de sous à débourser, même quand je suis en dehors d'une garantie, comme c'est arrivé sur une Apple Watch. Finalement, avec joint venture, comme ils voient qu'on est, je suis un bon client, ben ils finissent par.
Tu veux dire qu'Apple est capable de faire des gestes commerciaux?
Ben, en tout cas, ils ont pris en charge hors garantie la série 3 qui était posée problème.
On va voir la semaine prochaine.
On va voir.
Alors, est-ce que vous pensez, conclusion finale, bien sûr, conclusion tout court d'ailleurs de cette émission, est-ce que vous pensez que l'iPhone 11 Pro, on pensait à l'origine, disait que c'était un modèle de transition et c'est plutôt une bonne, une excellente surprise, hein, de ce modèle-là. Il y a de nombreuses avancées.
Oui, on pensait que ce serait un peu le modèle. Voilà, en attendant la 5G, bah, comme il n'y avait pas la 5G, ils ont bien pris le contre-pied de ça. Ils ont remis un peu tout ce qu'on voulait, de l'autonomie, du gros capteur. Du coup, on s'est dit, ah bah tiens, en fait, ils nous écoutent, c'est cool. Et puis après, on se dit, ah ouais, mais est-ce que dans 3 ans, de ne pas avoir la 5G ? Enfin, ceux qui achètent leur téléphone neuf, qui mettent 1500 balles ou même un peu plus de 1000 euros, ouais. Ils réfléchissent quand même à ça aujourd'hui, je pense. Enfin, moi, j'ai eu pas mal de lecteurs qui m'ont dit, ouais, je trouve ça bien, mais peut-être qu'ils auront amélioré un petit peu les capteurs l'année prochaine. Peut-être que l'autonomie sera même encore meilleure et autant avoir la 5G. Donc voilà, ça nous paraît peut-être un peu loin aujourd'hui, mais si Orange allume toutes ses antennes, peut-être dans un an, tu vois, ça pourrait être cool, notamment pour les pros, hein, ceux qui travaillent beaucoup avec leur téléphone et ils sont nombreux aujourd'hui.
Stéphane, et après Laurent.
Alors, on sait qu'Apple, si on regarde depuis la sortie, depuis 2007, qu'il y a des cycles de 3 ans. Et donc le premier, c'est un nouveau form factor, le deuxième, c'est une évolution, on va dire, mineure, et le troisième, c'est une évolution de l'appareil photo, ce que là, on a aujourd'hui.
On a respecté le problème.
On a respecté. Donc l'année prochaine, on aura un nouveau form factor.
Oui, là, de toute façon, ils ne peuvent plus reculer.
Donc c'est sûr qu'on va avoir ce type de choses, mais on va surtout capitaliser sur toutes les avancées que l'iPhone 11 a pu avoir par rapport au 10, au 10S, qui étaient déjà des avancées, on va dire, majeures. Là, ce qu'on a, c'est qu'en plus, donc, il y a la 5G qui arrive, donc c'est possible qu'on ait donc, des téléphones un peu moins en 4G, des téléphones en 5G, et que c'est après la génération d'après qui sera vraiment très intéressante, parce qu'on aura
absorbé la 5G.
Exactement. Et donc, je pense, en tout cas, que c'est pour moi une excellente surprise, parce qu'il n'y a pas eu seulement l'avancée de l'appareil photo, il y a aussi la batterie. Et donc...
Oui, mais c'est ça qui est remarquable, tu vois, donc, voilà. C'est qu'Apple écoute enfin ses utilisateurs. Donc, et on l'a vu avec le MacBook Pro 16 Pouces il y a 15 jours dans cette émission, et on le voit encore sur l'iPhone 11 Pro, c'est vraiment une bonne surprise, on le disait en amont, Laurent, hein. C'est vraiment une bonne surprise ce produit, et si vous hésitez encore, ben, n'hésitez pas très longtemps.
Oui, tout à fait, et moi, on a beaucoup blagué sur le fait que j'ai noyé mon iPhone XS, et donc du coup,
ça t'a bien arrangé.
Obligé de prendre le 11 Pro. Et in fine, je suis assez agréablement surpris.
Ouais. Et puis, il semblerait que la surprise soit aussi du côté des ventes, puisque les ventes sont en hausse. Même Apple, c'est un peu surpris. Hein. Il y en a peu de chiffres, disait, puisqu'Apple ne publie plus ses chiffres de vente, ce qui est assez énervant, comme il faisait auparavant. On sait que, selon l'Institut Kantar, la progression d'iOS serait en augmentation en France de l'ordre de 2,9%. Les ventes d'iPhone 11 et iPhone 11 Pro seraient supérieures aux attentes, selon cette fois-ci Ming-Chi Kuo, hein, le fameux analyste qui aurait demandé et aurait confirmé qu'Apple aurait demandé à ses fournisseurs d'augmenter la production de ces derniers modèles de smartphones, mais ils n'arrivent pas à répondre à la demande. Donc du coup, il va s'en vendre moins parce qu'ils n'arrivent pas à en fournir à temps que l'iPhone 10S qui était... Voilà, il se vendrait un petit peu moins, autour des 25 millions... d'iPhone 11 Pro. L'iPhone 11, lui, par contre, cartonnerait littéralement par rapport au 10R, entre 36 et 40 millions d'unités, contre 25 millions pour le 10R. Donc, c'est un vrai succès. On aura, encore une fois, il faut attendre un petit peu que l'année fiscale se lisse. On arrivera à avoir des projections via d'autres unités de... des IDC, des Kantar et compagnie, parce qu'encore une fois, il faut regretter qu'Apple ne publie plus ses chiffres de vente, ce qui permet de savoir si un produit est un succès ou pas. Il donne uniquement du chiffre d'affaires et c'est bien dommage. Un mot au sujet de notre sponsor cette semaine. Il s'agit bien sûr de SanDisk. SanDisk qui vous propose un nouveau produit. Il s'agit de l'Xpand Wireless Chargeur. C'est un chargeur à induction pour faire le plein de la batterie de votre iPhone et sauvegarder automatiquement ses photos. Il intègre en effet un SSD de 128 ou 256 Go. Pour archiver tous les clichés aux vidéos, en plus de recharger tous les iPhones de la famille, sans avoir bien sûr à s'abonner à un service dans le cloud. Pour copier les photos, c'est très simple, il suffit de poser le téléphone sur le chargeur pour qu'elle soit automatiquement copiée dans le SSD intégré. Il y a même un petit port micro USB pour le brancher au Mac, c'est simple. Ça s'appelle le SanDisk Xpand Wireless Chargeur. Merci à SanDisk de nous soutenir. Nous passons tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Didier.
Oui, Olivier, alors regarde, je ne sais pas si tu as le retour, est-ce que tu sais ce que c'est que ça ?
Je ne sais pas.
Alors c'est un truc assez rigolo, on pouvait mettre un petit peu tout dans nos coups de cœur aujourd'hui autour de l'iPhone, mais ça c'est vrai que moi c'est pas un truc que j'utilise, mais comme Apple en propose maintenant sur sa boutique, j'en ai acheté, donc tu vois, tu le mets de côté comme ça, tu tires Hop, ça te fait une petite poignée. Et ensuite, tu viens l'attacher ici à ton téléphone. Alors, je ne sais pas si j'arrive à le faire en live.
Ouais.
Et en fait, c'est ce qu'on appelle un grip. Enfin, les jeunes utilisent ça depuis quelques années. Là, tous les ados, tu les vois. Surtout les filles, d'ailleurs, c'est assez marrant. Et en fait, ça te permet d'avoir un petit peu plus de stabilité quand tu tiens le téléphone. Surtout ces gros téléphones-là à une main. Donc, c'est assez pratique. Et ça a une deuxième fonction. C'est-à-dire que tu peux aussi le poser sur la table comme ça pour regarder des films. Tu vois, c'est pas idiot hein, quand tu manges à midi ou quoi que ce soit.
Un petit cadeau pas cher pour Noël, quoi.
Comme c'est ça. Ça coûte 16 euros, hein, donc c'est vraiment, tu peux l'acheter sans problème. Et puis, tu peux le réduire comme ça. Donc, dans la poche, en fait, ça tient assez bien. Même avec une coque, là, tu vois, moi, je trouve que ça passe dans la poche du jean. Donc, voilà, celui-là, il s'appelle Pop Grip. Il y en a plein, évidemment, des fois, des un petit peu moins chers. Mais par contre, celui-là, il est assez solide, tu vois, ce truc-là, là, t'as l'impression que ça va toujours casser. Et là, ça fait un petit moment que j'utilise. Donc, voilà, c'est assez rigolo et pas totalement inutile, finalement.
Merci, Didier. Le Pop Grip de ton côté. Laurent, est-ce que tu as encore un petit cadeau à poser au pied du sapin?
Alors oui, je pensais parler d'une batterie, mais on a fait toute l'émission en disant qu'il n'y avait plus de problème de batterie pour l'iPhone.
Ouais.
Donc du coup, j'ai pu tester la semaine dernière deux batteries de chez Gold Zero, donc la Sherpa 100 AC et la Sherpa 100 PD. Et en fait, donc, c'est deux très très grosses batteries qui ont l'avantage de permettre de charger, y compris un Mac. Alors, pas le dernier 16, hein, pas le dernier...
100 watts
Donc, du coup...
Ouais.
Mais par contre, la batterie arrive à sortir 90 watts quasiment. Et l'autre propose... Alors, attention, la AC propose aussi une prise 220 volts. Donc,
on
pourrait mettre un chargeur derrière. Et bon, c'est du très gros, mais c'est vraiment pratique. Ouais. Je suis tombé en panne sur mon Mac l'autre jour. Du coup, on me l'a prêté. Et je n'avais pas accès aux 220. Et
en trois tournées, on fait le Mac sur tous les terrains avec ça. On va essayer.
Exactement.
Merci, Laurent. J'ai un peu spoilé ton coup de cœur cette semaine, Stéphane.
Oui, mais ce n'est pas grave. Je suis... en fait, la définition d'un coup de cœur, comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est... on est surpris par quelque chose.
Ouais. Alors c'est un peu le début d'une relation, mais après, il faut qu'elle dure la relation.
Voilà, exactement.
Parfois, on se lasse, ça arrive à un certain moment. Donc là, tu es un petit peu dans le...
En fait, j'étais très, très, très sceptique par rapport à cette chose qui est donc le Galaxy Fold et contre tous les téléphones pliables, d'une certaine manière, parce que je trouvais ça totalement inintéressant et pas du tout adapté à mes besoins.
Et en fait,
il a suffi juste d'un geste, celui-ci, voilà.
Pour te convaincre.
Pour me convaincre et surtout de voir la majestuosité de cet écran-là.
Ouais.
Alors là, je prends la photo du fond vert, ça n'a pas donné grand-chose. Mais je peux vous assurer que c'est quand même superbe parce qu'on peut prendre la photo dans cette position-là pliée. On la prend et après, on peut la voir en grand. On peut bien sûr prendre de... Mais c'est là où c'est le plus intéressant, c'est qu'on peut voir...
Il faut quand même voir sur la durée, quand même.
Bien sûr.
Alors, il y a eu beaucoup de critiques sur est-ce que l'écran marque au niveau de la pliure.
Bien évidemment, ça marque. Mais alors, voilà, je mets par une vidéo de qu'on connaît bien, pardon.
On refait le Mac.
Voilà, on refait le Mac.
Et c'est vrai que. Caméra. Voilà.
Et voilà, et c'est.
Oui, là, on peut se demander même si on a encore besoin d'iPad avec ce produit après. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles Apple. Il va à tâtons parce qu'ils veulent préserver leur marché de tablettes parce qu'ils sont leaders du marché.
Bien évidemment, mais surtout, c'est que je pense, pour eux, en tout cas, c'est vrai que c'est un téléphone qui peut rappeler le communicateur de Nokia.
Hein. Ouais, j'aime pas le design, moi, perso.
Non, mais bien sûr, moi non plus, parce que ça avait vraiment brique, là, sur le coup. Mais c'est une très bonne première version, c'est très surprenant, et on prend un malin plaisir.
Regarde. Il y a deux fois, quand même. Hein.
Je sais bien. Mais je pense que c'est pas quelque chose de simple et d'aisé, et je pense qu'ils auront beaucoup de bugs et beaucoup de retours, mais vu la seule chose qui est un peu négative, quand même, c'est le prix.
Ouais. Bah oui, 2000 euros, quand même, ça fait un peu chéro. De mon côté, regardez, c'est un coup de cœur que je devais vous présenter la semaine dernière dans nos coups de cœur de Noël, mais que j'ai malheureusement oublié. C'est le Time Porter de 12. Sauf si vous cherchez un petit cadeau sympa, pas trop cher pour offrir pour Noël, c'est un petit étui pour votre Apple Watch, un peu comme un étui à lunettes dans lequel vous glissez tous les accessoires de la montre d'Apple, bracelet, chargeur électrique, voire une petite batterie tout simplement, et un câble magnétique bien sûr de recharge, et ce dernier affleure le capot, et une fois l'étui fermé, ça se transforme en une sorte de dock pour accueillir votre watch sur la table de nuit. Donc, c'est plutôt une bonne idée. Et si vous baladez beaucoup, vous avez enfin tous vos produits, tous vos accessoires Apple Watch dans la même boîte. Donc, voilà une bonne idée de cadeau à poser au pied du sapin. Et ça vaut une quarantaine d'euros. Ça s'appelle le Time Porter de 12 South. C'est la fin de ce 356e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je ne sais pas encore si on aura la possibilité de le faire sur le Mac Pro, ça dépendra évidemment de la disponibilité du produit via Apple. Vous pensez bien que ce n'est pas un produit qu'on peut commander comme ça à la légère sur l'Apple Store pour vous le présenter, vu les prix, notamment le prix de l'écran. Donc j'espère qu'on pourra le présenter la semaine prochaine. Si ce n'est pas le cas, la semaine prochaine, on vous préparera une émission sur Apple TV, plus le service de streaming d'Apple. Dans les deux cas, on se fera plaisir à vous retrouver. Vous serez au rendez-vous, messieurs, Stéphane.
Oui, Olivier.
Bon, Laurent, Didier, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Écoute, moi, j'ai commandé le Mac Pro, mais je ne pense pas qu'il arrive la semaine
prochaine. Attends, ouais, ça sera un peu juste. À mon avis, il va arriver, il va falloir attendre, je pense, plutôt là, après les vacances de Noël pour retrouver, on fait le Mac, quoique. On peut être surpris et avoir des bonnes surprises avec Apple. Laurent, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Apple TV Plus.
Peut-être à New York, mais je verrai si je peux le faire. Je risque de devoir faire un aller-retour.
Et on sera là, express, si tout va bien, également pendant toutes les vacances de Noël. Et on prépare également deux émissions pendant les vacances de Noël. Soyez au rendez-vous. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer également sur le petit pouce, ça fait plaisir. Et même la petite cloche pour recevoir une notification qu'une émission est en ligne. Merci encore pour votre fidélité, une nouvelle année presque qui s'y achève pour On fait le Mac, et à la semaine prochaine. Au revoir.